Nous sommes là pour étudier la Bible ensemble et nous abordons un problème extrêmement important. Un problème qui nous concerne, nous, en tant qu'adventistes, d'une façon toute spéciale, puisque notre position est, je pourrais presque dire, unique dans l'ensemble des voix religieuses qui se font entendre aujourd'hui. Le problème de la loi et de la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, dit l'apôtre saint Paul dans sa lettre aux Romains, nous lirons le texte tout à l'heure, mais nous sommes sous la grâce. C'est donc le problème de la loi et de la grâce que nous abordons. Et nous occupons, face à toutes les réponses qui ont été apportées à ce problème, une place intermédiaire. Certains ont dit, saint Augustin par exemple, tout est grâce. Tout est grâce. Et vous savez qu'il n'a pas manqué de successeurs dans le temps, que ce soit du côté des théologiens, que ce soit du côté des penseurs comme Bernanos, tout est grâce. Et on a poussé très loin cette conception jusqu'à dire que le salut dépend exclusivement de Dieu. Puisque c'est Dieu qui fait grâce, puisque Dieu est le maître de la grâce, puisque l'âme n'a qu'à recevoir cette grâce, le salut finalement dépend uniquement de Dieu. Saint Augustin avait déjà lancé cette idée, mais elle a été amplifiée par la suite, et entre autres par Calvin, qui est arrivé à la conception d'une double prédestination. Si c'est Dieu qui fait tout, si tout dépend de Dieu, puisqu'il y a des gens qui aboutissent au salut, c'est Dieu qui en est le seul artisan, il y a une grâce à laquelle on ne peut pas échapper, mais puisqu'il y a aussi des gens qui seront rejetés, et les textes de la Bible sont formels à ce sujet, il y a une attitude de Dieu de réprobation, il y a donc une double prédestination, les uns sont prédestinés au salut, et les autres, réprouvés par Dieu, sont prédestinés à la mort éternelle. Voilà un des aboutissements de la doctrine de saint Augustin, selon laquelle tout est grâce. D'autres, qui avaient sans doute le cœur un peu plus miséricordieux, un peu plus sensible, et qui se sont sentis gênés par l'idée selon laquelle Dieu pourrait réprouver dès l'origine certains hommes jusqu'à les prédestiner à la mort éternelle, ont pensé que finalement tous seraient sauvés et ont introduit l'idée d'un salut universel. Un homme comme Frédéric Godet, admirable exégète et qui a été très près des conceptions adventistes, a été très attiré par cette conception de l'universalisme du salut. Tout est grâce. Et vous savez qu'à la fin de sa vie, Karl Barth s'est prononcé en faveur de cette conception des choses. Karl Barth, qui a suivi Calvin, a fini par penser que décidément, tout le monde devrait être sauvé. Résultat ecclésiologique de cette attitude théologique, si vous êtes catholique, restez catholique. Si vous êtes protestant, restez protestant. Si vous êtes sur une autre voie, restez-y, pourvu que vous fassiez route jusqu'au bout, correctement. Voilà une des conceptions, tout est grâce. À l'opposé de cette conception, diamétralement opposée d'ailleurs, il y a la conception selon laquelle tout est loi, et par conséquent, on est sauvé non point par grâce, mais par ses œuvres. Et même la grâce n'intervient qu'en fonction des œuvres accomplies. Hors de l'Église, point de salut, et cette idée existe encore aujourd'hui, même si elle est moins accentuée, même si elle est un petit peu voilée par les conceptions écuméniques. Hors de l'Église, pas de salut. Il faut donc appartenir à l'Église, avoir recours au sacrement. Le péché d'Adam est un péché qui entraîne notre culpabilité. Nous sommes non seulement affaiblis par nature, étant descendants d'Adam, mais nous sommes coupables du péché d'Adam, Dès lors, un bébé qui vient au monde est un être déjà réprouvé par Dieu, et il faut un sacrement spécial pour lui enlever la tare du péché originel. Ce sacrement, c'est le baptême. Et alors, on a poussé les choses très loin, puisque le baptême est le sacrement qui enlève cette tare, il a fallu prévoir un baptême appelé baptême d'urgence. Si une femme enceinte est menacée de mettre au monde un enfant mort, il faut baptiser l'enfant dans son sein avant sa naissance. Parce que si l'enfant n'est pas baptisé, il sera rejeté par Dieu. Et on a mis au point une technique de baptême d'urgence que n'importe qui peut pratiquer en cas de besoin pour sauver les enfants. Vous voyez à quelles aberrations on aboutit en allant dans cette direction. Un autre moyen de salut, outre le sacrement, ce sont les œuvres qui sont proposées par l'Église et qui ont le mérite de mettre l'homme à l'abri de la colère de Dieu et qui lui assure le salut. Voilà, très résumé, d'une manière schématique, les deux grandes directions, tout est grâce ou tout est loi. Et j'ai dit tout à l'heure que nous occupons une position intermédiaire. Déjà, tout au long de l'histoire du christianisme, on a vu apparaître des théologiens comme Pélage et d'autres, et qui ont essayé de modifier les positions qui avaient été adoptées par saint Augustin. Je n'ai pas l'intention de m'attarder à des détails purement intellectuels, théoriques, parce que finalement je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Ce que je voudrais, c'est être aussi pratique que possible. Et je lis un premier texte dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens, comme point de départ, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, j'ai choisi ce texte comme point de départ parce que on y trouve les deux conceptions que je viens de rappeler, celle de la grâce et celle des œuvres. D'une part, l'apôtre dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et d'autre part, il dit que nous sommes l'œuvre de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. De sorte que la grâce ne dispense pas des œuvres et les œuvres ne remplacent pas la grâce. Il doit y avoir un accord profond, essentiel, entre la grâce et les œuvres. C'est cet accord profond que nous avons à chercher. Première remarque. Dieu étant créateur, est inévitablement un législateur. Il n'est pas possible de créer quoi que ce soit sans avoir immédiatement à émettre un mode d'emploi. Créer n'importe quoi, le plus petit objet, le plus petit ustensile de cuisine, il faut que vous disiez comment l'utiliser. Et plus l'objet est compliqué, et plus le mode d'emploi est précis, et plus il est important de le suivre d'une façon consciencieuse. Si vous utilisez une voiture sans suivre les conseils du constructeur, vous l'abîmerez très rapidement, vous ne l'utiliserez pas aussi longtemps qu'il serait possible de le faire. Un créateur est législateur. Il n'est pas possible que Dieu crée l'univers et l'âme dans ce monde sans émettre immédiatement des lois. Aussi bien, dès les premières pages de la Genèse, nous trouvons-nous devant des instructions de la part de Dieu. Tu cultiveras le jardin, par exemple. Tu le garderas. Et puis, dès la fin de la semaine de la création, une institution divine, celle du sabbat, sur laquelle nous aurons à revenir demain. Et puis, deuxième chapitre de la Genèse, les deux arbres, l'un dont il faut manger le fruit, l'autre dont il faut ne pas manger le fruit. Nous en parlerons un peu ce soir, peut-être. Donc, il est tout à fait évident que dès les premières pages de la Genèse, l'homme se trouve devant des lois. Et bien avant que Dieu ne rencontra son peuple au Sinaï, il est dit d'Abraham qu'il fut béni par Dieu parce qu'il observait les lois de Dieu. Par conséquent, il n'est pas douteux que Dieu a donné les lois dès le commencement. Mais en même temps, nous constatons que dès le commencement, il y a une grâce. Dieu avait dit aux hommes, si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Mais immédiatement après le péché, une grâce intervient, en vertu de laquelle l'homme conserve l'existence, il conserve l'intelligence, il conserve son libre arbitre, son pouvoir de choix. Et Dieu place devant lui deux voies. Et il invite l'homme à le suivre sur la voie du bien. La grâce intervient dès le jardin d'Éden, en même temps que la loi. Et la grande remarque que nous avons à la grande vérité que nous avons à comprendre, c'est qu'il n'y a pas antinomie entre la grâce et la loi, mais au contraire, une parfaite complémentarité, une homogénéité totale de la loi et de la grâce. Je pourrais dire que la grâce est une loi et que la loi est une grâce. Ce sont deux aspects d'une même chose. Enlevés à la grâce, la loi de son utilisation, la loi qui préside à sa réception, et vous n'avez plus de grâce. La grâce est soumise à certaines conditions. Qu'est-ce qu'une condition sinon une loi? Mais enlever à la loi sa grâce, c'est-à-dire son orientation en vue du bien de l'homme, et la loi, au lieu d'être une aide, devient au contraire une écharde dans la chair. Mais nous pouvons lire des quantités de textes dans l'Écriture, et je pense qu'il n'est pas utile de le faire ici, vous les connaissez, montrant que la loi de Dieu a été donnée pour le bonheur des âmes, pour que les âmes puissent vivre en paix, en santé, qu'ils puissent découvrir l'intelligence des choses. Le psaume 119, par exemple, dit que la méditation de la loi de Dieu augmente l'intelligence des simples. Il est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 3 que c'est la loi qui garantit le bonheur de l'âme. La loi n'a pas été donnée pour contraindre l'homme à marcher malgré lui dans une direction qu'il ne souhaite pas, mais elle lui a été donnée pour éclairer sa marche, pour lui montrer par où il doit passer s'il veut éviter des problèmes. La loi, donc, est grâce. Elle n'est pas dans son principe une sorte de malveillance de la part de Dieu, de la part d'un tyran, d'un potentat sans cœur. La loi est grâce. Et la grâce répond à des conditions. Il n'y a pas contradiction, il n'y a pas antinomie, mais au contraire, une parfaite complémentarité, je répète, entre la loi et la grâce. Voilà une première remarque. Deuxième remarque, on a coutume de dire dans les milieux religieux que l'Ancien Testament c'est la loi et que le Nouveau Testament c'est la grâce. On peut d'ailleurs citer des textes, même de l'Écriture, qui semblent confirmer cette façon de voir les choses. À titre d'exemple, Prenons l'évangile selon saint Jean, au premier chapitre. Et là, nous lisons à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Un texte qui semble, à première lecture, confirmer l'idée selon laquelle l'Ancien Testament c'est la loi, et le Nouveau Testament, c'est la grâce. Mais c'est une vision sommaire, c'est une caricature de la réalité, c'est une vision superficielle des choses. Pensez que le salut offert par Dieu, par exemple, au peuple d'Israël, est fondé sur la loi, c'est tout à fait inexact. C'est une contre-vérité. C'est considérer ce que les Israélites ont pensé comme étant une révélation de Dieu. Les Israélites ont cru qu'ils n'avaient qu'à obéir pour être sauvés. En fait, les Israélites sont tombés, la plupart d'entre eux, dans ce travers. Et ils ont raisonné comme ceci. C'est difficile d'obéir. Par conséquent, dans la mesure où j'obéis, j'offre à Dieu quelque chose, qui vaut, puisque cela me coûte. Dès lors, mon compte chez Dieu devient de plus en plus créditeur à mesure que j'obéis davantage et avec plus de peine. Et lorsque mon compte est assez créditeur, alors Dieu me doit le salut. Et c'est ainsi que, non seulement on a considéré les 10 commandements de Dieu, mais on a ajouté toutes sortes de règlements sur le plan civil, sur le plan rituel. Et finalement, 613 prescriptions s'ajoutaient à toutes celles de l'Écriture que les Juifs devaient observer d'une façon scrupuleuse. Et chaque fois qu'ils avaient le sentiment d'avoir véritablement obéi à l'une ou l'autre de ces prescriptions, ils se disaient, eh bien, mon compte est de plus en plus créditeur, Dieu me doit quelque chose. Et alors ça, c'est précisément le péché originel. C'est précisément le péché par excellence. Penser que Dieu puisse nous devoir quelque chose, c'est le péché dans sa forme la plus dangereuse. C'est la séduction par excellence. Qu'est-ce que Dieu pourrait avoir à nous devoir dans la situation où nous sommes? En fait, si les Israélites sont tombés dans ce travers, nous devons bien réaliser que Dieu n'a jamais enseigné une chose semblable. Et le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Romains le démontre d'une façon vraiment très précise. Hein, je vous invite à tenir compte de cela. J'ai reçu, il y a une dizaine de jours, un coup de téléphone d'abord venant du fond de l'Afrique. Et ce coup de téléphone a été précisé quelques jours plus tard par une lettre. C'est un monsieur que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce que nous avons ses enfants au séminaire. Il n'est pas adventiste. Et il a entendu, il a écouté une conférence d'évangélisation faite par un de nos missionnaires. Je précise qu'il n'est pas adventiste. Il est chrétien, il cherche, mais il n'a pas pris position. Et il a été tellement dérouté par ce qu'il a entendu qu'à minuit, il m'a téléphoné après la conférence. Pour me dire, « Monsieur Stevny, je suis abasourdi. Je viens d'entendre une conférence faite par votre missionnaire ici, et il nous a dit que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu jaloux, un Dieu terrible, un Dieu cruel, un Dieu qui exige du sang, un Dieu... Et il a continué. Est-ce cela que vous enseignez? Et il a été tellement indigné par ce qu'il a entendu qu'il me disait, mais qu'est-ce que vous attendez pour faire du recyclage chez vous? Et ça a été confirmé par une lettre que j'ai dans mon bureau. C'est vous dire que nos conceptions ne sont pas toujours au clair dans ce domaine. Et nous avons à faire attention à ce que nous disons, même quand on prêche au fond de la fée. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui cherchent et qui ont la conscience ouverte. Bien, nous devons faire très attention, frères et sœurs, de ne pas confondre ce que les hommes ont compris avec ce que Dieu a dit. Le peuple d'Israël a souvent mal compris ce que Dieu lui disait. Et en ce qui concerne ce problème du salut par la loi ou par la grâce, il est tout à fait évident que Dieu ne sauve pas les hommes d'après la loi, mais d'après leur foi en sa grâce. Et le chapitre 4 de l'Épître aux Romains tout entier le démontre. Lisons quelques versets. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà le premier exemple. Et l'apôtre Paul y revient un peu plus loin au verset 9. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Voilà l'exemple qui est donné et développé tout au long de ce chapitre. Et il y a un deuxième exemple fourni par l'apôtre, c'est celui de David. L'apôtre Paul, qui est en train de montrer que nous sommes sauvés par grâce et pas par notre obéissance, par grâce et non par nos œuvres, non par nos mérites, mais par grâce. L'apôtre Paul, qui n'hésite pas à utiliser un pléonasme, nous sommes gratuitement sauvés par grâce, dit-il au chapitre 3. L'apôtre Paul éprouve alors le besoin de dire au chapitre 4, au fond, c'est ce qui a toujours existé, ce n'est pas nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans la compréhension des âmes grâce à Jésus-Christ. Mais il n'y a pas eu un mode de salut jusqu'à Jésus-Christ et puis un autre mode de salut à partir de Jésus-Christ. En fait, les âmes n'avaient pas compris. Mais dans le cœur de Dieu, dans l'intention de Dieu, dans la volonté de Dieu, le mode de salut était le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il y avait évidemment moins de connaissances, mais le fondement du salut pour les Israélites, c'était la foi en la grâce de Dieu. L'unique source du salut a toujours été et sera toujours la grâce de Dieu. Et c'est déjà ce qu'on avait enseigné au peuple d'Israël. Voilà une chose qu'il faut absolument comprendre, parce que trop souvent dans ce domaine, nous hésitons et peut-être que nous ne voyons pas toujours les choses sous un éclairage suffisamment biblique. Je voudrais d'ailleurs vous apporter une confirmation qui me paraît tout à fait magistrale à cette constatation. C'est, si vous voulez, une expérience typique du peuple d'Israël qui va nous confirmer dans cette compréhension des choses. Le peuple d'Israël se trouve en Égypte, esclave. Chaque semaine qui passe rend son esclavage plus douloureux, plus insupportable. Au point qu'à un moment donné, la vie n'est plus possible. Et le livre de l'Exode s'ouvre. Dieu descend vers son peuple, car il a vu sa souffrance. C'est un des textes émouvants de l'Écriture. J'ai vu mon peuple souffrir, et je suis descendu jusqu'à lui. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Son peuple n'observe plus ses commandements. Est-ce que Dieu va envoyer Moïse vers son peuple avec un gourdin pour lui dire « Vous n'observez plus mes lois, je vous rejette. Aussi longtemps que vous ne redresserez pas vos voix, vous serez un peuple maudit. » Dieu va dire à ce peuple, « Je suis votre Dieu. Et votre souffrance, je la porte dans ma chair, dans mon cœur. Je voudrais que vous cessiez de souffrir. Je voudrais vous faire sortir de ce pays de l'esclavage. » Suivez Moïse. Et puis vous connaissez toutes les tergiversations. C'est d'abord le peuple d'Israël lui-même qui doute. Non, c'est d'abord Moïse qui doute. Moi, une telle mission, franchement, tu n'y penses pas. Et il faut que Dieu insiste. Et puis c'est le peuple d'Israël qui doute. Toi, nous conduire hors d'ici? Et puis après, c'est Pharaon qui doute. Et Dieu doit donner à son serviteur Moïse la possibilité de faire des miracles devant Pharaon. Et les miracles se reproduisent, se multiplient, puis sont les plaies. Et la dixième plaie, plaie épouvantable. Car plus passe la grâce de Dieu qui appelle l'homme sans qu'il ne réponde, et plus la grâce même de Dieu devient une cause d'endurcissement pour l'âme. Un homme qui refuse la grâce de Dieu est, après l'avoir refusée, différent de ce qu'il était avant de l'avoir reçu. Une grâce ne passe jamais sur nous sans nous modifier en bien ou en mal. Si nous l'acceptons, nous avons fait un pas dans la voie du bien, de la purification, de la sanctification. Si nous la rejetons, nous sortons de l'expérience avec un cœur endurci. Et c'est ainsi que, dans le livre de l'Exode, il y a toute une série de textes qui parlent de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Et il y a exactement la moitié des textes qui présentent la chose de la façon suivante. Dieu appelle Pharaon, lui offre sa grâce, mais Pharaon endurcit son cœur. Et puis tout d'un coup, sauf erreur, c'est à partir de la septième plaie, mais je n'ai pas vérifié à l'instant. Peu importe, tout d'un coup, la grâce de Dieu continue à venir, mais on ne dit plus que c'est Pharaon qui endurcit son cœur, on dit que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. La grâce qui passe ne nous laisse pas indifférents. Elle nous améliore ou elle contribue à nous endurcir. Ce n'est pas la grâce elle-même, bien sûr, qui nous endurcit. Mais on voit les choses de l'extérieur, et de l'extérieur, on voit le résultat. Si je refuse la grâce, mon cœur se ferme, mon cœur se sclérose. C'est l'expression que Jésus lui-même a utilisée en parlant des pharisiens. Il leur a dit, vous avez le cœur sclérosé. Bon. Dieu arrache son peuple à l'Égypte. Finalement, mais de guerre lasse, Pharaon dit, eh bien partez, je ne veux plus vous voir. Le peuple s'en va. Il arrive dans le désert. Il y avait un chemin facile pour se rendre en Palestine. Il suffisait de longer la mer. En quelques 3 semaines, le peuple aurait pu se trouver à destination.
Au lieu de cela, Moïse conduit le peuple vers la mer Rouge. Quand Pharaon apprend cela, il se dit, oh, ils sont trompés. Et il reprend ses mauvaises intentions. Il lance son armée à la poursuite du peuple. Jusqu'à ce que le peuple se trouve coincé entre la mer et l'armée, comme entre le marteau et l'enclume. Et alors, ici, dans cette situation impossible, dans cette situation à vue humaine sans issue, là où l'homme ne peut plus rien faire, que dit Dieu ? Il appelle Moïse et il lui dit, parle à mon peuple. Et dis-lui qu'il marche. Ordre ridicule. Marcher où, s'il vous plaît ? Si le peuple avait pu, c'est la fuite qu'il aurait pris. C'est courir qu'il aurait fait. Mais où ? Dans quelle direction ? Comment ? Qu'il marche. Et ici, c'est la foi qui intervient. Il s'agit pour le peuple de mettre toute sa confiance dans un ordre impossible de Dieu. Mais à partir du moment où le peuple met sa foi en Dieu, alors la mer s'ouvre. Et le chemin est tracé. Le peuple est sauvé par grâce. Jusqu'alors, on aurait encore pu douter, on aurait encore pu penser que c'était le génie de Moïse dans ses contacts avec le Pharaon et qui avait finalement obtenu par diplomatie se laisser aller. Mais ici, alors que le peuple est coincé entre la mer et l'armée, il n'y a plus moyen de douter si Dieu n'intervient pas. C'est la perte. Mais Dieu intervient et c'est le salut par grâce. Sans le moindre doute possible. C'est la grande trouée de l'ancienne alliance. C'est le grand miracle. C'est le miracle de tous les miracles. Tous les miracles de l'Ancien Testament seront toujours considérés par rapport à celui de l'Exode. Et qu'en est-il maintenant ? Le peuple est sauvé par grâce. Que va-t-il faire ? Agir selon son bon plaisir ? Est-ce qu'il va faire tout ce qui lui plaît ? Vive la liberté, plus de loi ! Au bout de 3 semaines, le peuple arrive au pied du Sinaï. Et après le salut par grâce, la grande trouée à travers les forces du mal, il y a le grand rendez-vous avec Dieu au pied du Sinaï. Et Moïse reçoit des ordres précis. Le peuple d'Israël doit se préparer. Car c'est une montagne sainte, Dieu va apparaître sur la montagne, parler avec Moïse. Et alors on comprend qu'on n'approche pas, on ne s'approche pas de Dieu, n'importe comment, n'importe qui peut venir. Les Juifs et les Égyptiens qui ont mis leur confiance dans le Dieu des Juifs, tous sont invités. N'importe qui peut venir, les riches et les pauvres, les intelligents et ceux qui ne sont pas cultivés, les boiteux et les méprisés des hommes, tous sont invités, là, au pied du Sinaï. Mais Dieu rencontre son peuple et lui parle. Et plus que lui parler, il lui donne par écrit le décalogue. Est-ce que la grâce dispense de la loi ? Il s'en faut. La grâce rend possible le rôle de la loi. La loi sans la grâce, elle est inutile. La loi sans la grâce, c'est un instrument de torture. C'est un instrument de supplice. Elle nous dit de faire des choses dont nous ne sommes pas capables. La loi sans la grâce, c'est soumettre l'homme à une situation d'où il ne peut pas s'échapper. Mais après la grâce, la loi retrouve toute sa valeur. Voyez-vous, il y a 2 possibilités, il y a 2 sens, il y a 2 dimensions à la loi. Il y en a d'autres, mais je résume. La loi est là d'abord pour nous dire ce que nous avons à faire. Mais si nous ne l'avons pas fait, alors la loi est là pour nous condamner de ne l'avoir pas fait. Il y a 2 aspects.
Le peuple de la route est là pour m'aider à conduire ma voiture en sécurité. Mais si j'ai transgressé le code de la route, le code se dresse contre moi pour m'imposer une contravention. Eh bien, la loi a cette double mission. D'abord, nous éclairer, nous conduire, et puis ensuite, nous condamner. Mais nous condamner, est-ce pour nous perdre? Il y a encore ici deux façons de voir les choses. On peut condamner irrémédiablement, mais on peut essayer d'amener quelqu'un à prendre conscience de la gravité de sa situation pour qu'il puisse s'en sortir. Un médecin, par exemple, qui découvrirait une maladie grave chez son client, ne va pas lui taire sa maladie. Il va au contraire lui décrire sa maladie, lui expliquer que peut-être le malade a besoin d'une intervention chirurgicale. Ce n'est pas pour lui faire peur. Ce n'est pas pour qu'il passe des nuits blanches à réfléchir à l'opération chirurgicale qu'il va subir, mais c'est pour qu'il comprenne sa situation et qu'il fasse ce qui est à faire pour s'en sortir. Voilà un autre aspect encore à la loi. Eh bien, vous voyez, chers amis, que dans l'Ancien Testament, déjà, nous découvrons cette complémentarité de la grâce et de la loi. C'est parce que nous sommes sauvés par grâce que la loi nous est donnée pour que nous sachions quoi faire de notre vie. Nous ne sommes pas sauvés par notre obéissance. Et en tant qu'adventiste, il faut ici peut-être saisir l'occasion de vous rappeler que jusqu'en 1888, notre Église a été légaliste. Il y a eu en tout cas de fortes tentations de légalisme dans l'Église, jusqu'en 1888. Et lors d'une session importante de la conférence générale, il y a eu différentes interventions de la part de certains frères qui étudiaient la Bible d'une façon très attentive, et il y a eu surtout des interventions de la part de Savoy, en vertu desquelles on a découvert qu'il fallait un peu redresser le cap et mettre l'accent sur la grâce de Dieu, sur la foi en Jésus-Christ. La place de l'obéissance devait être rectifiée. Nous n'obéissons pas pour être sauvés, mais nous sommes sauvés pour être en mesure d'obéir. Roland Purie, qui est pourtant un pasteur protestant, dans un très beau petit livre sur l'Exode, dit que l'obéissance, c'est le salut. L'obéissance, c'est le salut. Celui qui est capable d'obéir, c'est déjà cela le salut. Puisque l'obéissance, c'est ce qui nous garantit le bonheur, la vie, l'intelligence, la paix, tout ce qu'on peut espérer. L'obéissance, c'est le salut. L'obéissance, c'est le salut. Celui qui est capable d'obéir, c'est déjà cela le salut. Puisque l'obéissance, c'est ce qui nous garantit le bonheur, la vie, l'intelligence, la paix, tout ce qu'on peut espérer de meilleur. L'obéissance, c'est le salut. Mais pour accéder à cette obéissance, il nous faut la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est dès lors une sorte d'énergie que Dieu met à notre disposition pour nous rendre aptes à obéir. Il y a la grâce de Dieu qui pardonne, mais il y a la grâce de Dieu qui dynamise l'obéissance de l'homme. Et obéir à quoi? Sinon, à la loi. Et j'arrive alors à notre texte, celui de l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Et nous allons d'abord le lire ensemble, puis nous allons essayer de le situer dans son contexte. Et vous allez voir comment son interprétation devient simple et lumineuse. Nous lisons à partir du verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors tout d'abord, je voudrais très rapidement, sans entrer dans aucun détail, situer ce texte dans son cadre. Vous savez que l'épître aux Romains est une épître magistrale qui a été écrite, et c'est la seule, d'une manière théorique, non pas pour répondre à des questions, pour réagir dans une situation donnée, mais véritablement pour fournir aux chrétiens d'Église de Rome un exposé systématique de la notion de salut par grâce. Ou encore, et c'est une autre accentuation de cette épître, expliquer aux chrétiens comment Dieu peut justifier l'homme tout en restant juste. Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Justifier l'homme tout en restant juste, c'est une expression qui revient 3 ou 4 fois au chapitre 3, entre les versets 21 et 26. Je lis juste la fin du verset 26. De manière à être juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Qu'est-ce que ça signifie, justifier ? Justifier, c'est considérer comme juste. Faites très attention. La définition catholique, c'est justifier égale rendre juste. On trouve parfois dans notre littérature des articles sur la justification qui confondent la conception catholique avec la conception protestante. On trouve dans notre littérature, même sous des plumes autorisées, l'affirmation « justifier, c'est rendre juste ». C'est inexact. Justifier, ce n'est pas rendre juste. Justifier, c'est considérer comme juste quelqu'un qui ne l'est pas encore. Et c'est vrai du point de vue exégétique, je ne veux pas entrer dans des détails techniques, et c'est vrai du point de vue de l'analogie de la foi, c'est-à-dire de la comparaison des textes. Prenez par exemple la parabole du publicain et du pharisien. Jésus dit du publicain, il retourna chez lui justifié, plutôt que l'autre. Et pourtant, ce publicain se frappe la poitrine en disant, Seigneur, je suis un pécheur, sois apaisé envers moi. Mais Jésus dit, il est justifié. Tandis que l'autre qui dit, je te remercie Seigneur parce que je ne suis pas comme les autres hommes, celui-là n'est pas justifié. Il y en a un qui se croit juste et il n'est pas justifié. Il y en a un qui se sait injuste et celui-là est justifié. C'est-à-dire considéré comme juste alors qu'il ne l'est pas. Mais tout le problème pour Dieu, c'est de trouver un moyen qui lui permette de nous justifier tout en restant juste. Est-ce que c'est juste de justifier quelqu'un qui n'est pas juste ? C'est pas juste. Et vous voyez le problème, n'est-ce pas ? Et je pourrais ici m'étendre longuement sur le danger du pardon, sur le risque du pardon. On peut, en pardonnant à la légère, enfoncer quelqu'un dans le mal, le boulonner dans une attitude néfaste. Des parents qui fermeraient les yeux devant les sottises de leurs enfants et qui se croiraient bons et miséricordieux et compatissants en fermant les yeux surtout et en pardonnant tout le temps. Ils feraient leur métier de pardonner, comme on a dit que Dieu fait son métier de pardonner. Est-ce qu'ils auraient des enfants valables ? Vous voyez ce qui arriverait, n'est-ce pas ? Un instituteur en classe et qui mettrait 20 sur 20 à toutes les dictées, même lorsqu'elles sont bourrées de fautes, sous prétexte de se montrer généreux. Vous pensez qu'il ferait faire beaucoup de progrès à ses élèves ? Évidemment que non, n'est-ce pas ? Alors Dieu veut nous justifier, nous considérer comme justes lorsque nous ne sommes pas justes, et il faut le faire en restant juste. Vous voyez le problème ? Quelle impasse ! Eh bien, toute l'épître aux Romains est là pour nous montrer comment Dieu s'y prend. Alors, au chapitre 1er, l'apôtre Paul commence par montrer que tous les païens sont responsables de leur état de péché. Ils ne connaissent pas la loi de Dieu, mais ils ont en eux une loi, celle de la conscience. Et face à cette loi de la conscience,
Ils sont coupables. Au chapitre 2, on passe aux Juifs. Et cela non seulement dispose de la conscience, mais il dispose encore de la révélation de Dieu. Or, comme ils ne se sont pas conformés à la volonté de Dieu, ils sont coupables a fortiori. Alors, tous les païens sont coupables, tous les Juifs sont coupables, chapitre 3, tous les hommes sont coupables. Tous ont péché. Il n'en est aucun parmi eux qui soit juste. C'est le chapitre 3, c'est le début du chapitre 3. Et alors apparaît ce grand texte au chapitre 3 où l'apôtre Paul montre le moyen de salut que Dieu a choisi en Jésus-Christ. Et que je vais résumer sans entrer dans aucun détail. Il faudrait 2 heures pour le faire au minimum. Nous allons devenir avec Jésus par la foi une seule plante. Le sarment sur le cèpe. C'est ça la foi. À partir du moment où nous avons la foi en Jésus, nous sommes unis à lui. Et la langue du Nouveau Testament emploie des termes magnifiques pour illustrer cela. Nous sommes sulfutai Christou, dit saint Paul au chapitre 6. C'est-à-dire que nous sommes devenus une seule et même plante avec lui. C'est la koinonia, c'est la communion avec le Christ. Et on emploie encore un autre mot qui signifie que lorsque nous sommes par la foi unis au Christ, nous devenons participants de la nature divine. Peut-être que nous aurons le temps d'en parler un peu ce soir à propos de la notion de création. Donc, la foi nous unit au Christ et fait de nous et du Christ un seul et même être. C'est ce que l'apôtre Paul exprimera plus tard en disant: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais à partir du moment où le Christ vit en moi, lui qui est juste, qu'est-ce qui va se passer? Une transformation inévitable. Quand on fait une greffe à un arbre, l'arbre sauvage se transforme. Une greffe va être faite à notre nature sauvage. Et notre nature sauvage va se transformer chaque jour un peu plus. Est-ce que Dieu attend que tous les fruits sauvages aient disparu pour nous considérer comme justes? Eh non! Dès l'instant où la greffe est opérée, dès l'instant où par la foi nous sommes unis au Christ pour devenir avec lui une seule et même plante, Dieu ne nous voit plus tels que nous sommes, mais déjà, il nous voit tel que nous serons lorsqu'aura abouti toute la transformation. Est-ce que c'est injuste? Et non, ce n'est plus injuste. Et voilà comment Dieu peut nous justifier tout en restant juste. Le brigand sur la croix auquel Jésus offre la vie éternelle, c'est un brigand. Mais comment ce brigand aurait-il vécu s'il était descendu de la croix par un recours en grâce? Ah, ce brigand aurait changé de conduite. Et s'il avait pu vivre assez longtemps, je suppose qu'il aurait porté des fruits de sainteté comme Enoch, il aurait marché avec Dieu, comme Élie, il aurait peut-être pu un jour être enlevé vers Dieu. Mais Dieu n'attend pas que le temps de notre vie, que l'histoire de notre vie soit assez longue pour que nous ayons pu transformer tous les fruits. À partir du moment où par la foi nous sommes unis au Christ, Dieu ne nous regarde plus, nous, tels que nous sommes, mais il regarde le Christ à notre place. Il nous voit à travers le Christ. Et c'est ainsi que nous sommes justifiés. Et Dieu est juste. Dieu serait injuste s'il nous justifiait par un moyen arbitraire, artificiel, par une sorte de deus ex machina. Et si, par exemple, il disait « il te suffit de faire telle chose, de faire couler du sang, ou bien de payer tant d'argent, ou bien de faire tel pèlerinage, et puis je te justifierai », alors ce serait injuste. Parce que ou bien ce sont les riches qui seraient privilégiés, ou bien ce sont les instruits qui seraient privilégiés, ou bien, que sais-je, une autre catégorie des hommes. Mais il n'y a aucune distinction entre les hommes. Tous peuvent et doivent avoir foi en Jésus-Christ. Et à partir du moment où cette foi établit entre le Christ et nous une communion de vie, alors le Christ devient pour nous la rédemption. Comme dit saint Paul dans 1 Corinthiens au 1er chapitre, verset 30, il a été fait pour nous justice, sainteté, rédemption. Il a été fait tout cela pour nous. Ce que nous ne sommes pas capables de réaliser, il l'a fait. Nous ne sommes pas capables d'obéir. Jésus a obéi. Et nous avons eu à l'école du sabbat la semaine dernière ce grand texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, que nous pouvons résumer ainsi. Jésus vient sur la terre et dit, Seigneur, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Alors, moi je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, dit l'apôtre Paul, sont abolies les premières choses et établie la deuxième. La deuxième, c'est faire la volonté de Dieu. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu tel que Jésus le développe dans le sermon sur la montagne. Et si nous avons foi en Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait à notre place, nous allons commencer, nous, de le réaliser. Peut-être n'achèverons-nous pas. Il est évident qu'un Moïse, qu'un saint Paul sont allés très loin dans l'accomplissement. D'autres sont allés beaucoup moins loin. Pensez par exemple à Jean-Baptiste. Est-ce qu'il est allé très loin, Jean-Baptiste? Jésus dit de lui qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Et pas longtemps avant de mourir, il doutait de Jésus dans sa prison. Il n'est pas allé très loin, Jean-Baptiste. Si vous le comparez à saint Paul, ou si vous le comparez à peut-être à Moïse, il n'est pas allé très loin. S'il est le plus grand de tous les prophètes, ce n'est pas en tant qu'homme, mais c'est à cause de sa place par rapport à Jésus. Parce que c'est lui qui montre Jésus. Mais peu importe que nous soyons allés loin ou pas loin, ce qui importe, ce n'est pas la distance que nous avons parcourue. Ce qui importe, c'est de savoir si nous sommes véritablement en Christ. Si nous sommes par la pensée scellés constamment sur le sept. Constamment en train de nous dire, que ferait le Christ maintenant s'il était là, à côté de moi, en moi? Et la question, ce n'est peut-être pas tellement, que ferait Jésus s'il était à ma place? La question c'est, que fera-t-il en moi? Pourquoi mettre un conditionnel? C'est déjà douter de sa présence, c'est déjà manquer de foi. Mais que va faire le Christ en moi devant telle situation? Voilà comment l'apôtre Paul développe le rapport qui existe entre la grâce, la source du salut, c'est la grâce de Dieu. Le moyen du salut, c'est Jésus-Christ. Celui qui réalise pour nous et à notre place ce que nous ne pouvons pas faire. Et la condition du salut pour nous, c'est la foi. Car à partir du moment où nous sommes scellés par la foi en Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, peu à peu, s'actualisera dans notre vie. Là, ce que saint Paul explique dans ce magistral chapitre 3, à travers un langage qu'il faut connaître, parce que c'est un langage de l'époque. Et en le lisant dans le texte français, malheureusement, on est parfois conduit sur des pistes un peu différentes. Mais si on remonte au texte, si on analyse ce passage en fonction du vocabulaire usuel à l'époque de l'apôtre Paul, voilà très exactement ce que l'on découvre. Et on arrive au chapitre 4. Au chapitre 4, l'apôtre Paul se dit, attention, on va peut-être croire que je suis en train d'annoncer un nouveau moyen de salut. Pas question, dit saint Paul. Ce que je viens de vous dire, c'était déjà le moyen du salut dans l'ancienne alliance. C'est déjà comme ça que Abraham a été sauvé, c'est comme ça que David a été sauvé. Et le même saint Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 10, le peuple d'Israël buvait un rocher spirituel qui le suivait, ce rocher était Christ. Alors chapitre 5,
puisqu'il faut avoir la foi en Christ, puisqu'il faut que le Christ vive en moi, comment est-ce possible? Moi, je suis un homme. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette expression? Vous avez déjà entendu dire Napoléon vit en quelqu'un ou Beethoven vit en quelqu'un? Jésus vit en moi, dit saint Paul. Ça paraît, pardonnez-moi l'expression, mais ça paraît un petit peu irréel. Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Eh bien, le chapitre 5 montre que non. Il y a dans l'humanité, dit l'apôtre Paul au chapitre 5, deux catégories d'hommes. Tous les hommes sont descendants du premier Adam. Ils n'ont rien à faire pour cela, ils n'ont qu'à se laisser vivre. Par voie de première naissance, nous sommes tous dans la lignée d'Adam. Mais Adam nous a transmis ce que vous me permettrez d'appeler la pesanteur du péché. C'est ce que c'est la pesanteur. Mettez une bille sur un plan incliné, vous n'avez pas besoin de la pousser, elle descend toute seule, c'est la pesanteur qui la pille. Bien, nous naissons avec la pesanteur du péché, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour pécher. Elle est toute seule, il n'y a qu'à laisser faire la nature. Parce que nous sommes nés avec la pesanteur du péché qu'Adam nous a transmise. Mais si les choses s'arrêtaient là, il y aurait injustice de la part de Dieu. Adam n'a pas été créé avec la pesanteur du péché, lui. Or, moi, je suis venu au monde avec la pesanteur du péché, c'est injuste. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait d'injustice. Et c'est pourquoi il envoie Jésus-Christ pour établir ce que vous me permettrez d'appeler, par opposition à la pesanteur du péché, l'élan de la grâce. L'élan de la grâce. Vous savez ce que c'est quand on a de l'élan sur une route. On avance presque sans difficulté, n'est-ce pas? Mais pour faire démarrer la voiture, il en faut de la force. Une fois que la voiture est partie, elle a de l'élan et elle grimpe la côte, mais sans difficulté. Eh bien, le Christ vient nous apporter l'élan de la grâce par son attitude et par sa foi qui nous communique. Par sa victoire qu'il met à notre disposition, il nous communique l'élan de la grâce. Voilà ce que l'apôtre Paul explique au chapitre 5. Nous sommes tous descendants du premier Adam, mais nous avons la possibilité de nous enraciner dans la lignée du second Adam. Et puis vient chapitre 5. Comment faire pour bifurquer? Nous sommes dans la lignée du premier Adam, et voilà qu'il faut bifurquer dans la lignée du second Adam. Comment est-ce qu'on va procéder pour réaliser cela? Eh bien, chapitre 6, l'apôtre Paul dit, mais c'est très simple, par le baptême. Par le baptême, vous allez mourir au péché, vous serez crucifié avec le Christ. Et s'il y a encore tout un aspect sur lequel nous pourrions nous étendre, nous pourrons le faire maintenant. Vous allez mourir avec le Christ. Et alors, le même baptême, c'est aussi la possibilité de ressusciter. La sortie des eaux du baptême, c'est une résurrection en Christ. À ce moment-là, nous ne faisons plus partie de la lignée du premier Adam, mais nous faisons partie de la lignée du second Adam, animée de l'élan de la grâce. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, tout le chapitre 6 décrit cela. Nous lisons, si vous voulez, à partir du verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort
Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. À partir du moment où vous faites par la foi cette expérience du renouveau, vous êtes mort au péché. Cette pesanteur du péché qui vous attirait vers le bas cesse d'avoir un tel pouvoir d'attraction parce que vous pouvez lui opposer une autre loi qui est celle de l'élan de la grâce. Vous voyez, la pensée, n'est-ce pas? Saint Paul ne nous conduit pas sur un chemin où nous pouvons être amenés à penser que nous n'avons plus à nous faire de soucis, nous pouvons faire ce que nous voulons. Vous savez que c'est ce qu'ont enseigné certains chrétiens, qu'on appelle les gnostiques. Les gnostiques ont enseigné que tout dépendait d'une attitude cérébrale, intellectuelle. Ils pensaient au dualisme, séparation du corps et de l'esprit. Seul l'esprit participe au salut. Le corps, c'est cette guenille dont il faut se débarrasser le plus rapidement possible. C'est la prison dans laquelle l'esprit est enfermé. Il faut se débarrasser de cela le plus vite possible. Mais pendant qu'on y est, on peut donner à ce corps tout ce que son instinct réclame. Vous voyez où cela conduit. Ça, c'était l'attitude des gnostiques. Un salut réservé aux intellectuels. Et même ces intellectuels s'arrogeaient le droit de vivre dans le vice, dans le péché, sous prétexte que seul leur corps y participait, mais que leur esprit était au-dessus de tout cela, déjà initié pour comparaître devant Dieu. Pas du tout, dit saint Paul. Vous êtes mort au péché, vous ne pouvez plus appartenir au péché, vous n'appartenez plus au péché. Et il faut y croire, mes amis. Si nous continuons à dire « oui, mais », jamais rien ne se passera. Mais si nous disons « oui, Seigneur, je crois que tu m'as délivré du péché », alors quelque chose se passera. Dieu ne fera jamais une délivrance en notre faveur si nous n'y croyons pas. Et nous sommes tellement modestes dans ce domaine, nous sommes des chrétiens tellement timorés, nous avons tellement peur de dire « oui, la victoire est acquise », que nous continuons à passer nos journées, nos semaines, nos mois et nos années comme des victimes du péché et du désordre. Mais ce n'est pas de l'humilité que de penser comme cela. C'est de la faiblesse, c'est de la complicité. La foi consiste précisément à dire « oui, la victoire est remportée, ce n'est pas moi qui l'ai remportée, il n'y a aucune gloire pour moi dans cette affaire, toute la gloire revient à Jésus-Christ, gloire à son nom. » Mais lui a remporté la victoire. Et sa victoire, il ne l'a pas remportée pour lui tout seul. Il l'a remportée en tant que fils de l'homme, en tant que récapitulant l'humanité tout entière. Sa mort sur la croix, c'est ma mort. Mais sa résurrection des morts, c'est ma résurrection. Et son ascension, frères et sœurs, c'est mon ascension. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2 que nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul continue. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels. Voyez comme c'est logique. Puisque vous êtes mort au péché, en vous unissant par la foi à Jésus-Christ, ce n'est pas un vaincu que vous vous unissez. C'est un vainqueur. Alors que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Et ne baissez pas de ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car, n'oubliez pas cette conjonction, car, qui lit le verset suivant, tout ce qui précède explique le verset suivant. Puisque vous êtes mort au péché, puisque le péché n'exerce plus sur vous sa pesanteur, puisque vous n'aimez plus le péché, puisqu'en vous associant à Jésus-Christ, vous avez pris position pour la victoire de Jésus-Christ sur le péché, qu'est-ce qui va se passer? Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous.
le péché n'aura point pouvoir sur vous. Le péché a du pouvoir sur nous aussi longtemps que nous le caressons, aussi longtemps que nous flirtons avec lui, que nous l'entretenons par des imaginations morbides, aussi longtemps que nous alimentons le péché par des lectures néfastes, par des images corrompues, par des musiques dangereuses, par des pratiques qui affaiblissent. Aussi longtemps que nous alimentons le péché d'une manière ou d'une autre, il reste fort. Mais à partir du moment où par la foi nous nous allions à Jésus-Christ qui a terrassé le péché n'a plus de pouvoir sur nous, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et il y a encore une explication entre la première partie du verset 14 et la deuxième partie. Et il vous faut maintenant éclairer, mais c'est devenu assez simple, cette deuxième partie du verset. Hupon naman, sous la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela signifie être sous la condamnation de la loi? Est-ce que cela signifie être sous l'obligation d'obéir à la loi? Est-ce que cela signifie être sous le régime de la loi? Autant de possibilités d'interprétation. Alors vous savez que quand on se trouve devant une expression ambiguë, et celle-ci l'est, il faut chercher toutes celles qui lui ressemblent et faire un travail de synthèse pour voir quelle est l'explication qui cadre avec l'ensemble. Or, je vais relever au moins deux textes où on trouve cette expression, dans l'épître aux Galates tout d'abord, au chapitre 4, verset 4, Galates 4, verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Jésus est né sous la loi. Est-ce qu'on peut dire qu'il est né sous la condamnation de la loi? Eh non. Voilà donc déjà un premier sens à éliminer, c'est ça. Est-ce que cela signifie qu'il est né sous l'obligation d'obéir à la loi? Oui. Eh oui, certainement. Et il était même le seul capable de le faire. Nous ne sommes pas capables, nous l'avons dit, d'observer les commandements de Dieu. L'apôtre Paul le mentionne plusieurs fois dans ses épîtres. Mais Jésus l'a fait. Il a été obéissant, dit saint Paul, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Et dans son épître aux Hébreux, il dit, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, cette expression pourrait signifier que nous ne sommes plus sous la nécessité d'observer les commandements de Dieu. Mais si nous admettons cette explication-là, alors nous mettons Paul en contradiction avec lui-même, puisque, par exemple, dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 19, il déclare « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout ». Et je donne ce texte parce que c'est le plus net, le plus clair, le plus péremptoire, mais il y en a des dizaines d'autres dans les épîtres de Paul, y compris dans l'épître aux Romains, qui disent la même chose. Alors est-ce que saint Paul va dire d'un côté l'observation des commandements de Dieu est tout, et dire de l'autre côté nous n'avons plus besoin d'observer la loi des commandements de Dieu? Est-ce que saint Paul va dire vous devez vaincre le péché? En effet, vous n'avez plus besoin d'observer les commandements de Dieu. il y aurait une rupture de logique dans le développement de sa pensée. C'est absolument impensable. Paul est un homme extrêmement logique dans ses constructions. Il ne va pas dire « Le péché n'a plus de pouvoir sur vous, vous n'avez plus à observer les commandements de Dieu. » Dans un passage où il montre au contraire que nous devons avoir remporté la victoire sur le péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Alors il reste la troisième interprétation. « Sous la loi » signifie « sous le régime de la loi ». Être sous la loi comme sous un maître dont on ne parvient pas à se libérer. Jésus est né sous la loi. Et il a eu, lui, la mission et la force de s'en libérer. Il a pu vivre ici-bas en remportant une totale victoire sur la loi. Il a pu accomplir parfaitement la loi. Mais du même coup, nous ne sommes plus sous le régime de la loi. À partir du moment où nous sommes en Christ, puisque Dieu ne nous voit plus tels que nous sommes, mais qu'il voit le Christ à notre place, nous ne tombons plus sous le régime de la loi. Nous sommes sous la grâce. Mais cette grâce, que va-t-elle faire? Nous rendre capables d'accomplir la loi par Jésus-Christ. Cette grâce sera l'aliment de notre obéissance à la volonté de Dieu. Cette grâce sera l'énergie qui nous transformera. L'apôtre Paul, au chapitre 6, emploie l'expression « sum futae Christu », une seule plante avec lui. Mais au chapitre 8, il emploie une autre expression « sum morphae Christu ». Nous sommes, comment dire, métamorphosé par le Christ. Sa forme devient notre forme, sa nature devient notre nature, et sa victoire devient notre vie et notre victoire. Voilà, chers frères et sœurs, comment je crois devoir lire et interpréter ce texte pour le mettre en parfait accord, en parfaite harmonie avec l'ensemble de la pensée, non seulement de saint Paul, mais de l'Écriture tout entière. Il serait très intéressant d'analyser le chapitre 2 de la première lettre de Jean, où on trouve exactement le même enseignement, mais je ne voudrais pas abuser, j'ai déjà abusé de vous, dépassant mon temps. Je vous demande pardon.